J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc le Seigneur m'a mis un message à cœur. Je vois beaucoup de souffrance autour de nous, que ce soit dans mon travail, et que ce soit aussi dans les chrétiens. Il y a des choses qui viennent à mes oreilles. Et je voulais vraiment insister sur la parole. La parole où il y a vraiment la vie pour nous, pour nos âmes. Donc j'espère que le message ne va pas être trop dur, mais c'est ce que Dieu m'a mis sur mon cœur. Prions. Père éternel, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es Dieu de l'amour. Père, je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos consciences. Que tu puisses parler à nos consciences. Que tu puisses toucher nos cœurs. Je t'en prie, Père. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses aussi renouveler le plus profond de notre âme par ta parole, parce que ta parole est la vie, elle est l'essence même de la vie. Alors Seigneur, sois béni, vraiment Seigneur, que ta parole ne reste pas sans effet. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes partis en vacances, nous avions 3 plantes, et nous avons une pièce qui à l'arrière-cuisine, où il y a de la lumière, donc on les a mis là. Et je leur ai mis de l'eau. Et quand nous sommes revenus de vacances, la plus belle des plantes, celle qui avait des fleurs, est morte. Elle a eu de la lumière comme les autres, elle a eu de l'eau comme les autres. Mais je ne connaissais pas ses besoins. En résumé, je suis un mauvais jardinier. L'homme pense se connaître, mais c'est faux. Nous avons tous des besoins différents, mais nous avons surtout besoin d'un jardinier qui nous connaît bien. Nous pouvons être assimilés à une plante, et notre jardinier, c'est Dieu. Regardez psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui est réussi. Nous reviendrons plusieurs fois sur ce texte. Aujourd'hui, nous allons plus nous approprier un texte dans l'épître de Jacques. Vous savez, l'épître de Jacques n'a pas toujours été très populaire. Elle a eu beaucoup de difficultés à s'imposer dans le canon des Écritures. Et c'est peut-être à cause de son contenu. Même Martin Luther, le grand réformateur, avait un problème avec ce livre. Il l'appela l'épître de paille, car elle semble peu structurée. Elle ressemble à un enchevêtrement d'idées. Mais pour certains, elle est peut-être de paille par rapport aux autres écrits. Mais je rejoins la pensée du commentaire de John Ronald Blue qui dit « Il y a suffisamment d'aiguilles dans cette meule de paille pour piquer la conscience de tout chrétien déprimé, vaincu et découragé. » Car la lettre de Jacques contient une série de directives pratiques adressées à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde, qui est toujours d'actualité. C'est un langage vivant et énergique. Sur 108 versets, on trouve 54 impératifs, soit 54 injonctions, soit une moyenne d'un appel à l'action tous les 2 versets. Cette lettre ressemble sous sa forme au serment, le serment sur la montagne de Jésus. On peut y faire un parallèle. Elle y parle aussi de nature. Et Jacques dénonce sévèrement le comportement des chrétiens dans leur relation aux autres. Et le but de cette puissance lettre, c'est d'exhorter les chrétiens à la maturité chrétienne, à la sainteté de vie. Elle traite beaucoup de la mise en pratique de notre foi plutôt que de ses préceptes. Si l'épître de Jacques n'est pas très populaire, c'est qu'elle dit des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire et encore moins à entendre. Avez-vous déjà reçu des reproches par une personne dont les reproches étaient réellement fondés? Quelle fut alors votre réaction? C'est dur à entendre et à accepter. Pour ma part, il m'est arrivé de répondre à cette même personne, regarde-toi toi-même, et après on avisera. Alors certains pourraient dire, Jacques, qui es-tu pour nous juger? Mais si nous recevons la même remarque directement du Seigneur, nous la croyons. Amen. Dieu a inspiré ce texte à Jacques. Alors notre attitude change et nous sommes obligés de nous taire. Dieu est omniscient. Il est le Père et lui seul a le droit de nous juger. Donc nous allons lire le passage en Jacques. C'est Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. C'est pourquoi, chapitre 1, versets 21 à 25, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. J'ai une plante qui est morte, car je ne connaissais pas ses besoins. Pour connaître nos besoins, nous devons apprendre à savoir qui nous sommes. De tous les temps, les hommes se posent ces questions. Le peintre Paul Gauguin a intitulé un de ses tableaux « D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous ? » Et pourtant, Dieu répond à ces trois questions dans sa Sainte Bible. Nous allons voir le premier chapitre, on va voir « Apprendre à savoir qui nous sommes » et cela permet de connaître nos besoins. Vous savez, Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Il n'a pas fait de nous des robots. Dieu avait laissé Adam et Ève au milieu du jardin d'Éden en leur ordonnant un ordre simple. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2,17. Que fait Satan, l'ange déçu? Il discute l'ordre de Dieu. Il l'interprète, il le susurre alors leurs oreilles, il glisse un faux raisonnement. Il le modifie avec des résultats tragiques pour la race humaine. Ils ont désobéi en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons voir toutes les conséquences. Ne pas oublier, Dieu nous a créés à son image. Genèse 1,26. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Intellectuellement, nous avons toujours la liberté de penser. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons donc une conscience. Et nous avons la faculté de créer. Et regardez, en Job, Job 12, versets 7 à 8. J'aime bien ce passage parce qu'il dit, Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. On peut voir dans ce passage que Dieu nous dit, interroge les animaux, interroge les bêtes, interroge la terre, interroge tout, interroge la vie. Tout ce que nous créons sur terre, on l'apprend des animaux, on l'apprend de la nature. Et Dieu nous dit, regardez, interroge et tu verras. Nous ne créerons rien de nous-mêmes. Nous ne faisons que copier ce que Dieu fait. Mais il y a un problème. À cause de la chute, nous avons la connaissance du bien et du mal. Vous savez, vous n'avez jamais imaginé, nous aurions pu naître en faisant uniquement le bien. Ça aurait été possible. Mais à cause du péché, on est comme un programme informatique piraté. Nous sommes capables du pire et, pour plus précis, surtout du pire. La chute a entraîné l'homme dans la folie. L'homme est capable de penser, de créer, et il s'en sert pour tuer. C'est de la folie. On pourrait vivre dans l'amour. Dieu nous a donné cette capacité de créer, il nous a dit observer la nature, mais on s'en sert pour tuer. L'histoire de l'humanité nous prouve cette triste réalité. Deuxième conséquence, physiquement, nous souffrons. Nous pouvons être malades et nous mourons. Et troisième fait, spirituellement, nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Et c'est très important de bien comprendre que chacun de nous est libre de penser, capable de faire le bien, mais aussi de faire le mal. Nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes des brebis perdues. Et bien pour moi, cette pensée est plus que terrifiante. Je suis une brebis perdue, libre de penser, libre de faire le mal, livrée à moi-même. Autre point important. Nous devons prendre conscience que notre vie sur terre, elle est brève. Amen. Et elle nous limite dans chacun de nos connaissances. Elle nous limite chacun dans nos connaissances. Regardez Job 8, verset 9, il dit « Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Mais l'homme est tellement présomptueux et orgueilleux avec ses 300 cm3 de cerveau, il a la prétention d'être le centre du monde, d'être hyper intelligent au-dessus de toute chose, face à l'immensité de l'univers. Et le comble, il se prend pour Dieu. Et par son excès d'orgueil, l'homme cherche à percer en plus le mystère de la vie. Ecclésiaste 11, verset 5 dit, « Comme tu connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Vous savez, on peut mettre des appareils sur le ventre d'une maman, on peut avoir des satellites, mais on ne sait même pas d'où naît le vent. Et il faudrait vraiment avoir un appareil en permanence pour suivre les mouvements d'un enfant dans le ventre de sa maman. L'homme ne pourra jamais percer le mystère de l'œuvre de Dieu par sa simple intelligence. Vous le savez, psaume 94, qui dit, verset 11, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Il y a Isaïe 55 qui dit la même chose, versets 7 et 9. « Non, l'homme ne pourra jamais comprendre les pensées profondes de Dieu. » Alors, pour nous, un peu d'humilité. Vous savez, l'homme aussi désire pratiquer sa propre justice. Pour un tel, une chose est grave. Pour d'autres, elle l'est moins. Et Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il existe une seule voie, celle que Jésus a ouverte, car il est le Fils de Dieu. L'homme en est arrivé à transformer le bien en mal et le mal en bien. Et regardez l'avertissement de Dieu en Ésaïe. Ésaïe 59, versets 1 à 3, il dit ceci. Non, c'est Ésaïe 5, pardon, excusez-moi. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il dit quoi ? Malheur. Malheur. Et puis il y a les hommes qui se disent de Dieu et qui pratiquent leur propre justice. Regardez en Romains, qui est chapitre 10, versets 1 à 3, elle est toujours d'actualité. Frères, c'est Paul qui parle, il dit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croiront. » Combien d'hommes parlent au nom de Dieu aujourd'hui, mais ne pratiquent même pas la justice de Dieu? Je n'ai même pas besoin de vous donner des exemples. Fait très important. Retournons à Ésaïe 59. Versets 1 à 8. C'est très important ça. L'homme ne comprend pas que son péché l'empêche de connaître Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt, et si l'on en brise, il en sort une vipère. Leur toile ne sert point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Vous avez vu verset 2, ce sont vos crimes. Un mensonge est un crime pour Dieu qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et vous avez vu à la fin, il n'y a pas de paix pour tous ces gens. Vivre dans le péché endurcit le cœur. Éphésiens, chapitre 4, verset 18-19, qui dit à peu près ces choses, ils ont la pensée endurcie. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Mais il y a aussi les hommes dont l'esprit refuse délibérément la parole de Dieu. Ils préfèrent rester dans l'ignorance. Regardez, c'est en Matthieu, chapitre 13, verset 15. Car le cœur, c'est Jésus qui parle, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils n'en comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Cette liste de tout ce que je vous dis sur l'homme n'est pas très réjouissant. Quand je vois ça, ne vaut-il pas mieux se rapprocher de Dieu ? Et quand on est chrétien, quand on voit ça, on n'a pas envie de retourner en arrière. Il est bien de comprendre ce que nous sommes sans Dieu. Nous sommes capables de faire le mal. Nous sommes égarés. Nous sommes fragiles. Notre vie, elle est brève. Nous sommes orgueilleux. Nous voulons pratiquer notre propre justice. Nous avons les pensées obscurcies sans Dieu. Et le péché est un obstacle et un rempart à connaître Dieu. Triste tableau de l'être intérieur de l'homme sans Dieu. Et tout ça pour conduire à quoi ? À la souffrance. Beaucoup de philosophes croient en l'humanité. Quand on voit ce qu'est l'intérieur d'un homme, l'humanité va tout droit dans le mur sans Dieu. Et vous savez, pour noircir le tableau, comme l'a dit Stéphane, le prince de ce monde, c'est Satan. Et il rôde. Et il rôde, comme il a fait avec Adam et Ève. Et là, il multiplie les faux raisonnements, les fausses pensées. Il rôde. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe ta loi. Un homme, un peuple, qui n'a plus de vision, est obligé de conduire sa vie en tâtonnant, en faisant des expériences lui-même, en prenant plus ou moins de bonnes décisions, avec des dégâts plus ou moins graves. Vous le savez. Dieu est rempli de compassion à l'égard de l'homme. Il ne lui veut que du bien. Il veut nous apporter sa propre vision dans nos vies. Dieu veut donner un sens à nos vies. Vous savez, la vision qu'il nous accorde ressemble à un phare dans la nuit pour que nous arrivions à bon port. Deux choix nous sont proposés. Un, on peut rester dans les méandres de l'obscurité. Deux, ou goûter à sa lumière. Proverbe 3:5, voilà une bonne résolution. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence.
Amen.
Un poète a écrit: deux hommes étaient accoudés à la fenêtre de leur cellule. L'un voyait de la boue, l'autre que les étoiles dans le ciel. Vous savez, Dieu nous donne de l'espoir. Il nous donne la vie dans la personne de Jésus. Regardez en Ésaïe 64. Versets 3 à 6. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre de Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Et tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Regardez, tant qu'on ne vient pas à Jésus, tant qu'aucun homme ne vient à Jésus sur cette terre, va souffrir, parce que c'est à cause de son péché. Tant que nous voyons, c'est la parole de Dieu qui le dit, et Dieu, ça l'irrite. Mais nous souffrons longtemps, longtemps, mais tout va mieux quand Jésus vient, nous a sauvés. Jésus est la lumière et la source de la vie. Dieu avait prévu d'envoyer son Fils pour nous sauver, pour nous donner un exemple. Regardez Ésaïe 50, Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Il parle de Jésus. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu à celui qui me justifie, et celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire qu'il s'avance vers moi ? Voici le Seigneur, l'Éternel me secourera. Qui me condamnera ? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et qui manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur Dieu. Qu'il écoute la voix de son serviteur. Et notre serviteur, c'est Jésus. Vous connaissez aussi cet autre passage en Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur, c'est toujours une prophétie, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. »
Amen.
Et on peut même continuer pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que les appels des térébintes, qu'on les appelle des térébintes de la justice. Et regardez bien, on retrouve encore cette image de l'arbre, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire.
Amen.
Nous sommes des magnifiques arbres. Lorsqu'un enfant imite le comportement de ses parents, il est en train d'apprendre et de développer ses propres attitudes. Il a besoin d'une référence sur laquelle fonder sa propre conduite. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous avons tous besoin d'une référence. Jésus, le Fils de Dieu. Vous savez, Dieu peut nous enrichir, mais pas de l'argent. Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Il veut nous enrichir d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Les trésors de la sagesse et de la science sont en Dieu, sont en Jésus. Sont en Dieu notre Père. Dieu nous offre son plus beau trésor, sa sagesse. Regardez 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez quoi ? Ses traces. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez quoi ? Des brebis errantes. mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. Ce que je retiens, il est notre exemple et on doit suivre ses traces. Et pourquoi ? Parce qu'il est notre pasteur, il est notre berger. Et quoi d'autre ? Il est le gardien de nos âmes. Un jour, nous quitterons cette terre et nous serons dans la présence de Dieu et Jésus sera notre avocat. Vous savez, dans sa dernière prière, Jésus, avant son arrestation, Jésus déclare quelque chose de très important en s'adressant à son Père. C'est dans Jean, chapitre 17, verset 15-16, il dit « Je te prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Vous savez, nous n'appartenons plus au monde dans lequel nous vivons, mais à Dieu. Nous ne devons plus imiter le monde. Nous ne devons plus être influencés par le monde dans lequel nous vivons, mais imiter la vie de Jésus. Vous savez, Jésus ne s'est jamais détourné du but de son existence. Luc 19 dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous aussi, nous devons avoir un but. Notre but, c'est de suivre Jésus. Jésus est venu servir. Nous aussi, nous devons servir. Jésus a achevé l'œuvre que son Père lui avait donnée. Regardez Jean 17. Jean 17, versets 3 à 5. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Et il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus a achevé. Ça veut dire que nous devons persévérer. Parce que c'est notre exemple. Jésus passait la majorité de son temps à s'occuper des autres. Il prêchait aux foules, enseignait ses disciples, guérissait les malades. Et Jésus enseignait avec autorité. Jésus a de la compassion pour les hommes. Regardez ce qu'il dit en Marc. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut mu de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à enseigner beaucoup de choses. Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus est notre exemple. Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus disait toujours la vérité, il n'acceptait pas les compromis et préférait rester silencieux lorsque c'était nécessaire. Devant Hérode, Jésus s'est tu. Marchons dans la vérité et ne cherchons pas les querelles. Jésus exprimait sa colère devant les religieux hypocrites qui étaient des mauvais conducteurs du peuple. Matthieu 23, il y a un énorme chapitre sur leur hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites. Marchons dans la vérité. Amen. Jésus savait trouver du réconfort près de son Père. Jésus marchait plein d'assurance dans la paix de Dieu. Il connaissait le but ultime de sa mission, mourir sur la croix pour les âmes perdues. Et confronté à la souffrance atroce qui l'attendait et torturé dans son âme, à l'idée d'être abandonné momentanément par son Père, où est-ce qu'il trouve du réconfort ? Au jardin de Gethsémané, en se confiant à qui ? À son Père. Et vous savez, nous aussi, on peut trouver du réconfort auprès de Dieu.
Amen.
Mais c'est à nous de le chercher.
Amen.
C'est à nous de le chercher. De nous humilier, de prier et de nous adresser à lui. Il ne va pas nous abandonner. Il n'a pas abandonné Jésus. Jésus a enduré la souffrance tout en faisant le bien, sans répondre. On a lu plusieurs passages. On l'a lu en Pierre, on l'a lu en Ésaïe. Tel est l'exemple que nous devons suivre. Mais là, je vous le dis, c'est le plus difficile à pratiquer. Je ne me cache pas. Mais on peut le faire avec la grâce de Dieu. Regardez en Jean 17, verset 19, Jésus dit... Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour qui ? Pour nous, pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus s'est sanctifié, Jésus s'est approché de son Père pour qu'il ait la parole de vie dans sa bouche, pour nous sanctifier, nous. Frères et sœurs, vous vous rappelez dans le psaume 1, nous voulons ressembler à un bel arbre qui donne du fruit, dont le feuillage qui ne se flétrit point. Nous voulons de la réussite, c'est ce qui est dit dans le psaume 1. Suivons Dieu. Vous connaissez, si vous ouvrez les radios dans votre voiture en ce moment, il y a une chanson qui passe qui dit « Mais comme je ne sais pas chanter, mais je vais essayer. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ?» Vous l'avez déjà entendu, je suppose. Jacques répond « Regardez, Jacques répond où ? » Vous n'avez pas reconnu. Hein.
Non.
Ouais, mais... Jacques 1, 25. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques ? Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors maintenant, nous allons voir mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, le temps de réveil est arrivé.
Amen.
On ne sera peut-être pas riche financièrement, mais on sera riche de la parole de Dieu.
Amen.
Pourquoi ? Quel bonheur ! Car elle contient la sagesse et la science qui fait du bien à nos âmes. C'est la source de la vie. Vous avez peut-être encore un doute sur la puissance de la véracité de la parole de Dieu. Avant la résurrection de Jésus, les disciples étaient dans l'étonnement. Ils étaient dans l'angoisse. Pierre avait même renié Jésus. Et regardez en Actes. Actes chapitre 4, versets 13 à 14, après la résurrection. Actes 4, chapitre 4, versets 13 à 14. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ce sont les religieux. Sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que c'était des gens du peuple. C'est du mépris. On est tous égaux devant Dieu. Et ils ont dit, ils n'étaient pas instruits. Faux. Ils étaient au puits. Ils étaient à la source de la vie, Jésus, le Fils de Dieu. Donc ils étaient encore plus instruits qu'eux. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Jésus confirme cette prophétie, « Ma doctrine n'est pas de moi, en Jean, mais c'est de celui qui m'a envoyé. » Et vous avez vu ce que ça a produit, suivre Jésus ? Ils étaient dans l'étonnement. Vous savez, quand on suit Jésus, vous en rendez pas compte, mais on est dans... On étonne les gens. Mais encore plus, quand nous marchons dans la vérité, personne ne peut nous faire de reproches. Vous avez vu ne leur ont fait aucun reproche. Ils ne pouvaient rien leur dire. Oui, quand nous mettons en pratique la parole, elle nous transforme. Alors, frères et sœurs, à nous de jouer. Mettons en pratique la parole. Vous savez, nous avons tous déjà acheté des appareils. Ils sont vendus avec une notice d'explication. Si on ne met pas en pratique les recommandations du constructeur, on risque quoi ? De détruire l'appareil à l'utilisation. Avez-vous déjà acheté des meubles à monter ? Je pense que tous. Si on ne suit pas la notice de montage, je crains fort que celui-ci sera correctement monté. Lorsque nous allons à l'école, nous sommes là pour apprendre des données, pour un jour avoir un diplôme, pour être reconnu comme quelqu'un de qualifié. Et pour faire quoi ? Pour ensuite les mettre en pratique, pour exercer correctement notre travail. Alors pourquoi mettre en pratique la parole ? Parce que nous sommes les enfants de Dieu.
Amen.
Dieu désire quoi ? Que nous soyons de bons enfants. Que nous marchions dans l'amour de Dieu. Éphésiens 5, verset 1 à 2, il dit « Devenez quoi ? Donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-nés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous comme une bonne offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est quoi la bonne odeur des enfants ? Un enfant de Dieu, c'est un enfant serein, confiant, bon, joyeux, rempli d'amour et qui écoute son Père. Vous savez, Dieu nous compare à ses enfants. Que font les enfants ? Ils font des caprices. Nous aussi, comme des enfants, nous faisons des caprices. Dieu, je t'ai prié pour une requête, tu ne m'as pas répondu. Dieu, je n'ai plus envie de te parler. Dieu, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Dieu, il m'énerve les autres enfants. Dieu, je ne suis pas content, je n'ai pas envie de t'écouter. Je crois que arrêtons de nous comporter comme des enfants de colère, ce que nous étions auparavant. Arrêtons de gémir. Regardez Jacques, chapitre 1, toujours verset 1. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez comment ? Avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Avec douceur. Avec douceur. Jacques, toujours dans ce chapitre qu'on a lu, fait référence au miroir, verset 23. Personne ne peut oublier son visage. Je fais le pari. Si je vous laisse seuls 5 minutes... face à un grand miroir, vous allez vous recoiffer. Vous allez vous remettre sur votre 31. J'en suis sûr et certain. Parce que c'est ce que je ferai aussi. Eh bien, moi, je dis, vous avez raison de le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes une créature merveilleuse.
Amen.
Dieu ne dit pas que vous êtes la plus belle des plus belles créatures. Il dit... Nous sommes tous des créatures merveilleuses.
Amen.
Car nous sommes sa création.
Amen.
Alors si la Bible est un miroir, elle donne le reflet de notre âme, vous êtes bien d'accord ? Alors quand elle appuie sur une mèche rebelle, sur une chemise mal positionnée, il faut agir pour le bien de notre âme. Nous venons devant un miroir pour être plus beaux. Il est bon de venir devant la Bible en cherchant à s'examiner, pouvoir avoir quoi ? Une plus belle âme.
Amen.
Vous savez, le psaume 139, verset 23 dit « Examinez à fond, examine à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. » Je vais vous dire une chose, et ça c'est très important. C'est très important. Si nous vivons notre vie sans jamais examiner nos pensées et nos attitudes et nos actes, nous ne changerons pas notre manière de vivre. Mais ça, il faut avoir de l'humilité. C'est la clé de la progression. Si on se laisse recevoir la parole avec douceur, Jésus va faire le reste. Il va nous transformer. Vous savez, Dieu ne nous change pas d'un coup. Moi, je sais ce qu'il a fait dans mon cœur. Et j'essaye de progresser, toujours. Et c'est pareil pour nous tous. On ne va pas changer d'un coup. Et ce n'est pas nous qui allons changer les autres. C'est la parole de Dieu.
Amen.
Mettons en pratique la parole. Voilà ce que dit Jacques. Et il faut aussi comprendre une chose. C'est bien dans nos pensées que sont déterminés nos actes. Regardez en Proverbe. En Proverbe 30. Versets 32 à 33, il est dit ceci. Proverbe 30, versets 32 à 33. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Donc c'est bien dans nos pensées que les choses se déterminent. Si nous approchons de Jésus en lisant sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Elle va alimenter nos pensées. Pourquoi faire? Pour nous apprendre à aimer, à pardonner, à respecter, à tolérer, à être patient, à être bon et à être doux. Toutes ces qualités appartiennent à Dieu. Elles sont indispensables pour le bien de nos vies, car elles procurent la paix.
Amen.
Attention à ce que nous mettons dans nos pensées. Nous avons deux manières d'alimenter nos pensées, la vue et l'ouïe. Ce que nous mettons devant nos yeux, ce que nous écouterons, aura une grande incidence ou une grande influence sur nos pensées. Vous vous rappelez du psaume 1 ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Deuxième recommandation, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Troisième recommandation, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, on peut être moqueur, après on peut devenir pécheur, et après on peut devenir très méchant. Que nos pensées ne s'écartent pas de la pensée de Dieu. Proverbe 3:3 dit « Lis les préceptes de Dieu à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur et tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Aux yeux de Dieu et des hommes. Les hommes, il faut penser aux autres, ceux qui ne sont pas sauvés. Autre point, si des mauvaises pensées vous envahissent, dites stop tout de suite.
Amen.
C'est facile de le faire.
Amen.
Mais ce n'est pas les pensées continuer. Ça s'arrête tout ça. C'est vous qui pouvez...
Amen. Amen.
Vous savez, l'ennemi rôde. Il rôde comme il l'a fait. Il va toujours vous entraîner dans de faux raisonnements. Mais sachez une chose, devant la parole de Dieu, il fuira.
Amen.
Je vais vous donner un exemple de mauvaise pensée, tout bête. Je suis moche et je suis nul. Qu'est-ce qu'a dit Dieu ? Tu es une merveilleuse créature.
Amen. Amen.
C'est pareil pour le reste.
Amen.
Si on apprend juste ce mot, je suis une merveilleuse créature. Je me le répète plusieurs jours, si je suis négatif,
Amen.
J'ai pensé négatif dans ma tête, je suis une merveilleuse créature.
Amen.
Dieu nous donnera la force.
Amen.
C'est pas les hommes qui ont le droit de nous juger, juste Dieu.
Amen.
Et aussi un autre point important, mettons en pratique la parole. Et c'est la base. Apprenons à être fidèles dans les toutes petites choses. C'est Jésus qui dit, en Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi dans les grandes. » Vous savez, il y a un truc tout bête. Apprenons à parler avec amour. Il faut être fidèle en ces petites choses. Vous savez, Proverbe 12, 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole, quoi, le réjouit. » Je vais vous lire un petit texte qui dit tout le contraire. Rien n'est plus efficace qu'une parole d'encouragement, prononcée surtout au beau moment. Je vais vous lire ce qu'une femme n'a jamais su faire. Une femme américaine, une épouse américaine, à son mari. Je me souviens... Excusez-moi. Je me souviens avoir emprunté ta voiture toute neuve et l'avoir emboutie quelques kilomètres plus loin. Je pensais que tu allais t'emporter contre moi et me traiter de tout, mais tu ne l'as pas fait. Je me souviens du jour où nous sommes allés sur la plage alors que tu m'avais déconseillé. La pluie, selon toi, était imminente. Il s'est mis à pleuvoir et en revenant, je m'attendais à ce que tu te moques de moi en déclarant « Ne t'avais-je pas dit qu'il pleuvrait aujourd'hui ?» Et tu ne l'as pas fait. Et cette fois où j'ai renversé du jus de fruits sur ton costume blanc, je savais que tu allais être terriblement vexé et que tu m'en tiendrais rancœur. Mais tu ne l'as pas fait. Et que tu allais être terriblement vexé. Et cette autre fois où nous devions sortir à une soirée très officielle, et je t'avais dit par erreur que la soirée était censée être décontractée. Tu avais mis une paire de jeans et tu t'es senti mal à l'aise dès le début de la soirée. J'étais sûr que tu allais partir et me rendre responsable de ce fiasco. Mais tu ne l'as pas fait. Je voudrais te dire que je t'aimais, que je t'appréciais dans le tact, la patience et la douceur dont tu as toujours fait preuve à mon égard le jour où tu reviendrais du Vietnam. Mais tu n'es jamais revenu. Voilà ce qui peut nous arriver. Profitons des gens qui sont autour de nous. Profitons. Arrêtons de nous prendre la tête pour des choses qui n'ont pas été futiles. Donnons des bonnes paroles autour de nous. Donnons des bonnes paroles à nos enfants, à ceux qui nous aiment, à ceux qui sont autour de nous, et même à ceux qui ne nous aiment pas. Dans nos familles, oui, soyons fidèles dans ces petites choses. Apprenons à être fidèles dans la prière. Vous savez, on court tous les uns et les autres. Tous. C'est dur. Mais je peux vous assurer. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai eu des fois où je ne priais pas. Mais ça change toute la donne. Parce que je courais, je suis fatigué. Donc je me couche, je dors. Mais prier change tout. Change tout. Vous savez, Daniel priait 3 fois par jour. Chapitre 6 de Daniel. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un exemple. Et vous connaissez la vie de Daniel, vous connaissez sa relation avec Dieu, vous avez vu ce qu'il a pu faire avec sa vie de prière. Apprenons à mettre la pratique de la parole dans les petites choses. Si notre vie est un peu une vie de course, nous pouvons méditer aussi dans notre voiture, dans le bus, en marchant. Psaume 119, verset 97, il dit « Combien j'aime ta loi, elle est l'objet de ma méditation. » Et qu'est-ce que je vous ai dit en psaume 1 ? « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit et sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Pourquoi mettre en pratique la parole ? Vous vous rappelez l'état de l'homme sans Dieu ? C'est pas très glorieux. Le péché rend l'esclave l'homme. Regardez, si on retourne en Jacques, verset 1:25, il dit « Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La loi de Dieu nous rend quoi ? C'est écrit quoi ? Elle nous rend libres. Libre. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être libre ?
Amen.
Qu'est-ce que ça fait du bien d'être en paix ?
Amen.
Qu'est-ce que ça fait du bien d'être auprès du Seigneur ?
Amen.
Qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas être dans le tourment ?
Amen.
Qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas dire de mensonges ?
Amen.
Vous savez, vivre à sa guise, sans aucun contrôle, c'est un peu comme supprimer les freins d'une voiture. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous, qui s'offrent à nous. On peut vivre libre dans la paix grâce à Jésus ou vivre esclave dans les souffrances à cause du péché. Mon choix, il est fait. Éloignons-nous du péché. Ne flirtons pas avec lui. Vous savez, le diable est plus malin. Si on flirte avec le péché, ça sera la descente. J'ai fini. Jacques 1:25 dit « Qui aura plongé le regard ?» Et qu'est-ce qui est écrit d'autre ?« Qui aura persévéré, sans oublier, et se mettant à l'œuvre, sera heureux. » J'ai une histoire, une belle histoire en Luc qui résume tout ça. Luc 24. Et nous allons finir sur ça. Versets 1 à 11. Jésus a été crucifié, il est au tombeau. Et voilà ce que font des femmes. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparées, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. En leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui lui était arrivé. Ce qui est beau dans ce passage, ça résume. Elles ont dit quoi ? Elles ont écouté Jésus. Et qu'est-ce qu'ils aient dit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ces femmes ont persévéré. Elles sont restées à côté de Jésus. Elles sont restées dans la mort. Elles sont restées au pied de la croix et au sépulcre, elles sont restées auprès de Jésus. Vous voyez la persévérance ? Et verset 28, donc là on a la persévérance. Et au verset 28, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Elles se sont mises à l'œuvre. C'est elles qui, les premières, ont annoncé aux hommes, vous vous rendez compte ?
Amen.
C'est des femmes qui ont persévéré.
Amen.
C'est magnifique.
Amen.
Et je finis par juste ce verset, Jean 17, versets 17 à 21. On l'a un peu lu tout à l'heure, mais je vais aller plus loin. Jésus avait dit, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Là, le Seigneur prie pour qui ? Pour nous. Il prie pour nous. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Qu'est-ce qu'il est dit à la fin ? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà notre responsabilité. Si nous ne manifestons pas la vie de Jésus dans nos vies, les autres ne croiront pas. Voilà notre responsabilité devant Dieu. Il faut que les autres voient que Jésus vit en nous. Amen. Prions. Père éternel, c'est vrai, Seigneur, je voulais te remercier pour ta parole. Père, nous sommes vraiment peu de choses sur cette terre. Je prie, Seigneur, que chacun de nous ait toujours de l'humilité, que chacun de nous ait toujours les yeux fixés sur toi. Parce que, Seigneur, tu es la source de la vie. Et je prie, Père éternel, que tu puisses vivre puissamment dans chacun de nous, que tu puisses faire resplendir ta gloire dans chacun de nous, que tu enlèves, Seigneur, toute mauvaise chose à l'intérieur de nous, que tu enlèves toute mauvaise pensée, tout faux raisonnement, que nous puissions, Seigneur, être des serviteurs puissants pour ta gloire. Et toutes ces choses se feront grâce à toi, Seigneur. Nous sommes faibles sans toi, mais toi, Seigneur, tu nous donnes la joie, tu nous donnes le bonheur. Nous sommes comme un arbre auprès d'un cours d'eau. Nos feuilles ne sont pas flétries. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Que la joie abonde dans nos cœurs, que l'amour abonde dans nos cœurs, que la paix abonde dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur, redistribuer toutes ces vérités autour de nous. Gloire te soit rendue, ô Jésus, toi le Fils de Dieu, toi le puissant Roi qui a changé nos vies. Gloire à ton nom. Amen.